Iowa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. À la une de l'actualité, au Tchad, l'ex-gouverneur Adam Nouaki Charfadine a été condamné à 5 ans de prison ferme. Au Kenya, au moins 15 personnes sont mortes dans l'incendie du plus grand marché de Nairobi. Donald Trump et Vladimir Poutine tiendront leur premier sommet le 16 juillet à Helsinki, un terrain neutre. Dans le journal de la Coupe du Monde, nous reviendrons sur le Sénégal qui a perdu face à la Colombie et sort de la compétition. Mais tout d'abord, le journal. Au Tchad, le verdict est tombé cet après-midi dans l'affaire ministère public et maître Doumra Manassé contre l'ex-gouverneur de la région du Logon oriental, Adam Nouaki Charfadine et ses co-détenus. Il a été condamné par le tribunal de grande instance de N'Djamena à 5 ans de prison ferme avec 5 millions d'amendes. André Komadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Adam Nouaki Charfadine a été jugé coupable pour destruction de biens, empiètement sur les fonctions judiciaires, discrédit jeté sur la décision judiciaire, complicité à la détention arbitraire, outrage à magistrat et attentat à la liberté. Lui et le commandant de la Légion de la gendarmerie de Doba, Jamal Mahamat Nimir en cavale, et son adjoint sont condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme avec 5 millions d'amendes chacun. Un mandat d'arrêt a été émis contre Jamal Mahamat Nimir, toujours en fuite. Les trois gendarmes écopent chacun 6 ans d'emprisonnement ferme avec 200 000 francs d'amende et sont radiés de leur corps. Colère des avocats de la défense qui entendent et interjeter appel puisque la loi leur accorde un délai de 10 jours. Pour Maître Olivier Guara de la défense, à quelques minutes de ce verdict, certains individus sont déjà au courant de la peine qui allait être prononcée par les juges. Pour lui, un appel sera relevé pour dénoncer cette fuite d'informations et ce qu'il qualifie de parodie de justice. Maître Doumra Manassé, l'auteur de la plainte, se dit partiellement satisfait de ce verdict et entend lui aussi faire appel pour que le droit soit véritablement dit. Car pour lui, l'affaire est criminelle parce que, précise-t-il, l'un de ses clients libéré par la justice, puis repris par Adam Nouaki Charfadine et ses hommes, est porté disparu. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Par ailleurs, le gouvernement tchadien se dit inquiet de la situation sécuritaire en Libye où sont présents des mercenaires du Tchad. De nombreux ressortissants tchadiens vivent également en Libye, pays frontalier du Tchad. L'armée nigériane annonce avoir arrêté 17 suspects en lieu avec les massacres du week-end dernier dans l'état du Plateau. Des meurtres avaient été perpétrés dans les villages ainsi que des attaques contre des peuls. Toujours au Nigeria, Sheik Ikwagbu, 35 ans, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, devenant ainsi le plus jeune candidat de cette campagne depuis la nouvelle loi baissant l'âge limite en politique dans un pays où plus de 60% de la population est âgée de 18 et 35 ans. La mission des casques bleus au Mali renouvelée pour un an. Les 15 membres du Conseil de sécurité qui ont voté à l'unanimité ont toutefois mis en garde les parties maliennes pour obtenir des progrès rapides dans le processus de paix. Cette mission ne restera pas toujours au Mali et cette résolution est claire sur le fait que nous ne pouvons plus accepter de retard pour la paix, a averti l'ambassadeur adjoint des États-Unis auprès de l'ONU. Au Togo, au lendemain de la visite des présidents ghanéens et guinéens, facilitateurs pour résoudre la crise politique qui secoue le pays depuis près d'un an, l'opposition vient de rejeter la tenue d'élections législatives d'ici la fin de l'année, comme le préconisent les négociateurs. La Guinée équatoriale a annoncé la baisse des taxes imposées aux compagnies aériennes étrangères après la menace de plusieurs d'entre elles d'arrêter la desserte de ce pays en raison d'un coût trop élevé. Ainsi, Malabo annule la TVA sur les billets internationaux et réduit la taxe de sécurité aéroportuaire. La décision prise mercredi entre en vigueur avec un effet immédiat. Le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien vont bientôt se rencontrer. C'est ce qu'a rapporté la radio-télévision Fana, proche du pouvoir éthiopien. Une première en près de 20 ans entre les deux plus hauts dirigeants de ces pays voisins qui se sont menés une guerre meurtrière. En Éthiopie, selon la radio d'État, 10 personnes ont été tuées dans des zones d'affrontement interethniques dans l'ouest du pays, zone menacée par une propagation des violences selon un organisme des Nations Unies. Les Nations Unies, justement, qui par ailleurs ont rendu public des nouveaux chiffres faisant état de plus de 2 millions de déplacés dans le pays en raison d'affrontements intercommunautaires. Au Kenya, 15 personnes sont mortes et plus de 70 autres blessées la nuit dernière dans l'incendie du plus grand marché à ciel ouvert de Nairobi. Nathalie Barge.
L'incendie s'est propagé à des bâtiments adjacents après s'être déclaré dans un dépôt de bois du marché dans l'est de Nairobi. De nombreux pompiers et l'armée kényane ont été dépêchés sur les lieux. Ils ont récupéré 9 corps dans le bâtiment calciné. Plusieurs personnes sont portées disparues. Les secours essayaient encore ce matin d'accéder à certaines parties du marché où il y avait une épaisse fumée et des câbles électriques. Les autorités ont eu des difficultés à contenir les propriétaires des shops qui tentaient de s'approcher malgré les nombreuses explosions de bonbonnes de gaz. Le marché de Gikomba a subi plusieurs incendies ces dernières années, provoqués notamment par des installations électriques artisanales. Les autorités du comté de Nairobi tentent d'établir les causes de cet incendie.
Toujours au Kenya, le lac Turkana, plus grand lac désertique au monde et considéré comme un des berceaux de l'humanité, a été placé ce jeudi par l'UNESCO sur la liste du patrimoine en péril. Il est en effet menacé par un barrage hydroélectrique et des projets d'irrigation éthiopiens. L'ex-Swaziland, rebaptisé récemment Eswatini, compte limiter l'immigration et créer une taxe pour les mariages avec les étrangers. Ainsi, le projet de loi présenté au Parlement prévoit que les personnes désireuses de s'unir avec un citoyen d'un autre pays devront s'acquitter auprès du ministère de l'Intérieur d'une somme de 30 000 lilangeni, la devise locale, soit près de 1 900 euros.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine tiendront leur premier sommet le 16 juillet à Helsinki, en terrain neutre. Eric Maniarakiza.
La Maison Blanche et le Kremlin ont annoncé simultanément la rencontre entre les deux chefs d'État en préparation depuis des mois. Ce sommet constitue une nouvelle tentative de réchauffer des relations qui n'ont jamais été aussi mauvaises depuis la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Monsieur Trump et Poutine aborderont l'état actuel et les perspectives de développement des relations russo-américaines et les principaux sujets internationaux. Mercredi soir, le président Trump a affirmé son intention d'évoquer notamment les crises en Syrie et en Ukraine. Selon le Kremlin, le sommet devrait comporter un tête-à-tête, un repas de travail, une conférence de presse conjointe et la publication d'une déclaration commune. Avant le sommet, Donald Trump doit assister au sommet de l'OTAN prévu les 11 et 12 juillet à Bruxelles, puis il est attendu à Londres le 13. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est félicité de son premier sommet entre Washington et Moscou.
Donald Trump a une nouvelle fois remis en cause l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, alors que Robert Mueller, ancien chef de la police fédérale, n'a pas encore fini son enquête. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a menacé ce jeudi d'opposer son veto aux conclusions du sommet de l'Union européenne consacré à la question migratoire si l'Italie n'obtient pas satisfaction pour ses demandes. Les précisions avec Irénée Herman-Humbo.
L'Italie attend des actes forts des dirigeants européens sur la question migratoire. Ce sommet sera un choix et je suis disposé à en tirer toutes les conséquences, a averti le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte dès son arrivée à Bruxelles pour cette rencontre. Monsieur Conte dit avoir obtenu beaucoup de manifestations de solidarité d'autres dirigeants européens sur le sujet, des propos qu'il souhaiterait voir se traduire par des faits, sinon son pays pourrait opposer un veto. Le chef du gouvernement populiste de Rome a rappelé avoir soumis une liste de demandes lors d'une réunion informelle avec 15 de ses homologues européens dimanche dernier à Bruxelles. Selon lui, la proposition soumise par l'Italie est raisonnable et conforme à l'esprit et aux principes de l'Union européenne sans donner plus de détails. Il souligne que son pays n'a plus besoin de signes verbaux mais de faits concrets et que cette rencontre devra faire un choix clair et net entre deux voies.
Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure du Mondial 2018 en Russie. Nicolas Pinault est en studio avec nous pour nous rendre compte de la journée. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Akia, bonsoir à tous. La terrible désillusion bien évidemment pour le Sénégal. Ce soir en Russie, les Lions de la Teranga éliminés de ce Mondial après une défaite 1-0 face à la Colombie. Un pénalty refusé pour le Sénégal en première mi-temps sera sans doute le tournant du match. Le Sénégal est éliminé malgré la défaite du Japon 1-0 face à la Pologne. C'est la différence de carton jaune plus nombreux côté sénégalais qui a permis aux Nippons de se qualifier. On va retrouver sur place Amdinsi, envoyé spécial de VOA Afrique que j'ai joint juste après le match.
Pourtant, le Sénégal avait bien démarré cette rencontre en exerçant un pressing qui a gêné quand même cette équipe colombienne durant la première mi-temps. Mais comme vous le savez, il y a eu quand même un fait de match durant cette partie. C'était la 16e minute. L'arbitre de la rencontre avait accordé un pénalty suite à une faute de Sanchez sur la salle de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané. Mais l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir visionné quand même les images. Le Sénégal a continué quand même à gérer cette première période. Finalement, les équipes sont retournées au vestiaire sur ce score de 0 buts partout. Au retour des vestiaires, les Colombiens qui savaient qu'une victoire pouvait les qualifier ont mis quand même la pression sur les Lions du Sénégal. Ils ont quand même continuer à attaquer et ce qui devait arriver arriva lorsque sur un corner le coup de tête du défenseur quand même colombien a trompé la vigilance de Khadim Gaye qui n'a pas pu retenir le ballon. Les Sénégalais ont essayé de tenter mais ils ont été maladroits à l'arrivée. L'équipe nationale du Sénégal perd, donc le Sénégal sort de cette compétition par la petite porte.
Voilà, Dinsi joint à Samara en Russie avec les Lions de la Teranga. Déception aussi des supporters sénégalais à Dakar, également dans la capitale américaine.
C'est le sport. You know, il faut qu'un gagnant et un perdant aussi y a. Donc nous sommes très fiers de nos Lions du Sénégal qui ont fait un tournoi exceptionnel, une jeune équipe. Donc c'est ça le football. Hein. Donc tu perds et puis il faut rebondir.
Un supporter sénégalais au micro d'Arzuma Compaoré à Washington. Au total, les 5 équipes africaines sont éliminées. Mauvaise nouvelle pour le foot africain. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonsoir. La sortie précoce des représentants africains de la Coupe du Monde 2018 peut déjà permettre de présenter le bilan de l'épopée du continent dans la compétition. Tout le monde se félicitait du casting final après les éliminatoires de la zone Afrique dans la pléthore de clubs rassurait et la jeunesse talentueuse des deux représentants de l'Afrique subsaharienne était porteuse d'espoir. Les résultats ont été mi-figue et mi-raisin. L'Afrique du Nord a, comme à son habitude, produit un football de qualité, étalant sa technique individuelle et collective, sa culture tactique évidente et malgré des résultats insuffisants, des scores normaux de football, en dehors d'une Tunisie qui, face à la Belgique, a fait preuve de laxisme. Les ailes de Carthage se sont autorisées d'encaisser 5 buts contre 2, un score anachronique depuis un certain Russie-Cameroun en 1994. Sinon, sans fixation absolue sur son joyau gala, l'Égypte aurait eu ses chances. Avec un arbitrage plus correct et plus de respect pour l'Iran, le Maroc aurait passé le premier tour, sans doute au détriment d'un des deux favoris de poule, le Portugal et l'Espagne. Tandis que, par manque de conviction, la Tunisie mériterait que la sélection rende des comptes. Par contre, c'est de l'Afrique subsaharienne traditionnellement plus exposée à l'incertitude qu'est venue l'heureuse sensation. Nigérians et Sénégalais sont tombés de justesse, des armes à la main et avec la manière. Par ailleurs, une interprétation plus favorable des ralentis leur aurait ouvert les portes des huitièmes de finale sans que personne ne crie au scandale. L'Odyssée africaine s'arrête à la porte du second tour, mais l'Afrique tient son rang et confirme ses progrès. Il reste juste à ses formations à soigner des détails qui font pencher la balance. À bientôt.
Voilà, il y a quelques minutes de la fin des matchs dans le groupe G. C'est la Tunisie qui mène 2-1 face au Panama. Ce serait la première victoire des Aigles de Carthage. Les buteurs Ben Youssef et Kazri. Et dans la grande finale de ce groupe, entre les deux équipes déjà qualifiées, l'Angleterre et la Belgique, ce sont les Diables Rouges qui mènent 1-0. Si le score en restait là, la Belgique affronterait le Japon en 8e de finale. L'Angleterre, la Colombie et K.
Merci beaucoup.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours avec vous. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, place au dossier du jour. À Dakar, des milliers de personnes étaient réunies à la place de la Nation pour regarder le match Sénégal-Colombie du groupe H. Le Sénégal a perdu la chance d'aller en huitième de finale. Aucune équipe africaine n'a pu franchir le cap du premier tour. Sur place, le reportage de notre correspondant, Seydina Bagueille.
À la place de la Nation, les supporters étaient relativement confiants et bouillants après une première période parfaitement maîtrisée par les Lions. Une prestation collective jusqu'alors satisfaisante pour les fans de l'équipe nationale du Sénégal, comme l'indique Abdoulaye Ba Traoré.
Bon, d'après les 45 premières minutes, bon, on est satisfait de nos Lions. Bon, voilà, bon, ils ont produit de très bons jeux, oui. Bon, ça reste que le but, bon, genre, on a eu un but, mais malheureusement, bon, l'arbitre n'a pas sifflé, genre, voilà. Oui, il y a au point de Keita a sifflé tout le monde. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas. Bon, je croyais que Keita n'était pas bon, mais là, ce qui nous a, comment dire, produit en première mi-temps, franchement, c'est très plaisant.
À la mi-temps, les supporters comme Seydina Oumar se projetaient déjà sur un éventuel huitième de finale.
On attendait Yao Balé qui est venu et qui a donné tout son talent. Vraiment, on est très satisfait. Ouais, fantastique, vraiment fantastique. On est derrière eux et on les supporte de bout en bout, de A à Z, à 200% même, à 200%. On va qualifier, Inch'Allah, et aller battre l'Angleterre ou le Belgique, Inch'Allah.
Les ambitions affichées par les Sénégalais seront douchées par le but de la Colombie à la 74e minute. Un but qui a plombé les chances de qualification du Sénégal et plongé dans la tristesse les supporters présents à la fan zone. Fatima Wan en perd ses mots.
Opposite à 60%, et tu vas la vie, la défaite vient à chaque moment qu'on n'attendait pas. Nous avons bien joué, mais si la défaite vient, ça vient. Personne n'y peut rien. Mais nous prions pour nos clients de faire la mienne la prochaine fois. Bien continuer comme ça, ça ira là pour la prochaine fois, Inch'Allah.
Malgré l'élimination, l'équipe du Sénégal a un avril radieux devant elle, d'après Djibi Diallo.
Il faut quand même essayer de gérer la défaite avec philosophie. Bon, nous tous, on aurait souhaité vraiment se qualifier, mais les choses étant ce qu'elles sont, donc moi je me dis qu'il faut savoir gagner dans la dignité, mais aussi perdre dans la dignité. Bon, nos Lions n'ont pas démérité, on est une équipe jeune, et vraiment, moi je dis chapeau bas à cette équipe, et vraiment, il faut quand même leur donner la chance quand même de se préparer encore pour d'autres séances.
À Dakar, l'euphorie qui entourait une éventuelle qualification du Sénégal a laissé place à une tristesse. Total. Les supporters sont déçus par l'élimination mais restent optimistes quant à l'avenir de cette jeune et talentueuse équipe sénégalaise. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Maroc, la condamnation des meneurs du Irak, le mouvement de protestation qui a agité le Nord Maroc en 2016 et 2017, a suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume. Claire Morin-Gibourg a joint le journaliste judiciaire Brahim Moklis pour lui demander quelle était l'atmosphère au royaume chérifien.
On n'attendait pas qu'il y ait un verdict aussi lourd que ça. Donc c'est pour ça que la réaction a été très présente, soit fait des communiqués à travers des organisations auxquelles il appartient, des ONG, même des avocats qui ne défendent pas les personnes qui sont mises en cause dans cette affaire. On fait des communiqués, on fait des articles, on fait des chroniques. Des citoyens ont manifesté hier, juste après l'annonce du verdict. Des gens sont allés pour contester devant la prison où sont détenues les personnes condamnées. Il y a eu hier deux manifestations à Casablanca et à Rabat, une à Casablanca dans une place très connue, et à Rabat devant le Parlement. Donc il y a une panoplie de réactions de la part des gens, sans parler de ce qui se passe sur les pages Facebook, les réseaux sociaux en général. Même partis politiques ont vécu, on n'a pas vu une réaction aussi rapide que ça de la part des partis politiques marocains. Plusieurs formations politiques ont fait des communiqués pour appeler un peu à revoir ne serait-ce ce qu'on appelle la gravité de ce verdict.
À votre avis, que va-t-il se passer dans les prochains jours ?
Justement, c'est la grande crainte, c'est qu'il y ait une réaction qui s'amplifie, que les gens sortent dans la rue pour contester la gravité de ce verdict, parce que surtout dans le, on entend parler maintenant de ce qui se passe à Al-Fatima, et aussi à Jalada, parce que pour, en guise de préparation de l'autre procès des gens qui ont été détenus dans le cadre des procès de Jalada, les gens sortent à Oujda, dans la région où se trouve Jalada, et aussi à Al-Husseina et Nador. Donc, la crainte, c'est qu'il y ait d'autres manifestations et qu'il y ait une confrontation avec les forces de l'ordre. Donc, c'est la grande crainte.
Est-ce que vous pensez que l'on peut espérer une grâce du roi?
Oui, là aussi, c'est une alternative qui est attendue d'ailleurs depuis le démarrage du procès. Mais est-ce que ça va avoir lieu? Parce qu'en général, la grâce n'intervient qu'après la fin des procès, de son processus, et que les décisions prises aient atteint l'autorité de la chose jugée. Donc il faut attendre que le procès se termine pour qu'il y ait une grâce dans ce sens-là.
Mais le procès est terminé, là?
Non, c'est en première instance. Il va y avoir l'appel. Donc ce n'est que le premier degré. Ce sont les décisions qui ont été prises en premier degré. Donc il faut attendre l'appel.
Brahim Mokli, journaliste au Maroc.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Angar, dans le centre du Nigeria, les cultivateurs sont en deuil après les massacres qui ont eu lieu le week-end dernier. Plus de 200 personnes ont été tuées dans une dizaine de villages, dans des violences entre éleveurs et agriculteurs. Ces conflits récurrents sont principalement fondés sur des questions foncières. Les précisions avec Dili Diko.
Les violences de samedi dans la région du Plateau sont apparemment des représailles à la mort jeudi dernier de 5 éleveurs peuls tués par des fermiers de l'ethnie Bérom. Selon le gouverneur de l'État du Plateau, Simon Lalongue, ces affrontements auraient causé la mort de plus de 200 personnes. La police nigériane, qui soupçonne les éleveurs, a fait état de 86 morts, mais de nombreuses sources locales, les membres des communautés affectées, avancent un bilan de plus de 100 morts. Les attaquants n'ont pas pu être clairement identifiés. Écoutons Chiroma Yasu, le chef communautaire du village d'Ungar.
Ceux qui sont venus sont des étrangers. Nous ne les connaissons pas.
L'insécurité au Nigeria semble grandissante, contrairement à la promesse faite par le chef de l'État, Muhammadu Buhari, celle de garantir la sûreté des Nigérians. Après les dernières violences, de nombreuses voix se sont élevées pour exiger le départ du président s'il ne parvenait pas à mettre fin à cette résurgence des violences intercommunautaires. Du côté des populations touchées, l'aide ne semble pas arriver. Mafouak Matouré, un résident d'Ungar, explique avoir tout perdu.
Ceux qui nous ont attaqués ont tout brûlé. Ma maison a été rasée, ils nous ont pillé et pris tout ce qui était viable. Nos motos, nos engrais pour travailler la terre et même ma télé. Nous voulons quitter cet endroit, mais personne ne nous vient en aide.
Pour certains, au vu de la situation, il ne reste plus qu'une chose à faire, partir. Comme l'a fait Paulina Auta, une résidente de Ganarop.
Je pars à cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Nous étions assis là et tout à coup, nous avons vu débarquer des individus vêtus de noir. Ils ont commencé à tirer.
Désormais, la terreur ne semble plus venir uniquement de l'insurrection islamiste de Boko Haram. Les violences interethniques sont aussi à l'origine des effusions de sang. Au Nigeria, le règlement de ce conflit de longue date entre éleveurs et fermiers est devenu un enjeu clé pour les prochaines élections en février.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde aujourd'hui, merci de nous avoir suivis à la mise en onde Joselle Morissin, à la console Ziang et à la présentation Ekia Badou. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Bonne suite des programmes. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquête et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.